l'histoire du catholicisme au XXe siècle, et notamment le pontificat de Jean-Paul II. Jean-Paul II, donc, qui est élu pape à la mort de Jean-Paul Ier en septembre 78, à l'âge de 56 ans. C'est un jeune pape. C'est presque un des plus jeunes papes de l'histoire récente, en tout cas. 56 ans pour un pape, c'est évidemment extrêmement jeune. L'idée était double. Derrière la nomination au pontificat de l'archevêque de Cracovie, primat de Pologne, c'était d'une part qu'il y ait un long pontificat en élisant un homme relativement jeune, qui plus est en pleine forme et sportif. Il y avait toutes les chances pour qu'on ait affaire à un long pontificat, ce qui fut. Et deuxièmement, la Pologne était le seul pays d'Europe où le catholicisme avait le vent en poupe, où ça marchait. Partout ailleurs, le catholicisme était en recul, y compris la péninsule ibérique. On était 2 ou 3 ans après la mort de Franco, et c'était la plongée en Espagne. La fringale de liberté, de jouissance, qui avait été réfrénée pendant l'époque franquiste, s'en donnait à cœur joie, et le peuple espagnol basculait dans le divorce, l'immoralité, abandonner les églises, etc., même si, bien sûr, il ne faut pas se faire d'illusions, l'église espagnole et portugaise reste encore aujourd'hui très forte, mais quand même, après donc, la chute du franquisme, ça a été un recul terrible, justement, du catholicisme dans la péninsule ibérique, qui en était un des bastions en Europe. Restait uniquement la Pologne. La Pologne, qui plus est, était aussi aux marches de l'Europe catholique, en contact direct avec le monde orthodoxe, qui a pour l'heure été sous la coupe du communisme. Et le catholicisme polonais était directement confronté avec le communisme. Et engagé dans une épreuve de force dans laquelle, petit à petit, le catholicisme prenait l'avantage. Et prenait l'avantage, notamment, justement, grâce à l'épiscopat polonais, qui avait une longue habitude et une longue expérience de la résistance au communisme, mais même avant, disons, à tous les envahisseurs qui avaient opprimé la Pologne. La Pologne a une longue habitude, justement, de l'oppression. Et le catholicisme, pendant l'histoire de la Pologne, a toujours été le ciment autour duquel s'est regroupé le peuple polonais en lutte pour son indépendance. Et dans les crises, dans les moments d'occupation, le peuple polonais s'est toujours regroupé derrière l'Église catholique. Après 1948, c'est-à-dire après l'instauration du régime communiste en Pologne, le pays n'a pas fait exception à la règle. Et à nouveau, donc, on a assisté à un véritable renouveau du catholicisme polonais. À l'époque, le primat de Pologne était le cardinal Wyszyński, qui a été emprisonné par le pouvoir communiste stalinien, de telle sorte que le cardinal Wyszyński et ceux qui ont été emprisonnés avec lui, parce qu'il n'a pas été le seul, sont devenus des martyrs de la cause polonaise, des martyrs du monde catholique. Et après quelques années passées en prison, sans que le pouvoir ait réussi à briser la volonté du cardinal, sous la pression de l'opinion publique mondiale, le pouvoir communiste a été obligé de relâcher le cardinal. Il est devenu un symbole, et très vite, les églises polonaises étaient pleines, de telle sorte que le pouvoir communiste a dû lâcher du lest. Après le coup de Berlin, la crise de Berlin de 1958, une espèce de coup d'État intérieur a eu lieu en Pologne, qui a amené au pouvoir un régime communiste. Certes, il n'était pas question d'en changer. Et l'histoire de la Hongrie, qui avait eu lieu à peu près à la même époque, 2 ans plus tôt, donc 1956, avait montré ce qu'il en coûtait quand on voulait changer de camp à cette période où la Russie soviétique dominer l'Europe, son glacis occidental d'une main de fer. Et vous savez comment les Russes avaient noyé dans le sang la révolution hongroise de 1956. Au même moment, donc, l'exemple hongrois faisait tache d'huile, notamment dans la Pologne voisine. Il y avait eu des troubles qui avaient aussi été réprimés dans le sang. Moins évidemment qu'en Hongrie, parce que les Polonais avaient bien compris que l'épreuve de force n'était pas à leur avantage et ils avaient donc mis les pouces plus tôt. Mais quelques temps après, un nouveau pouvoir était venu, des communistes plus modérés, disons, étaient venus au pouvoir en Pologne, sous la direction de Władysław Gomułka, qui avait libéralisé quelque peu le régime. Notamment justement l'Église catholique et partant toutes les églises, y compris les églises protestantes d'ailleurs, avaient eu en Pologne depuis lors, depuis Gomułka, un espace de liberté qui était absolument sans précédent dans aucun pays de l'Est, n'est-ce pas ? Le communisme était arrivé à la conclusion que l'épreuve de force avec l'Église catholique risquait de lui être désavantageuse, et finalement on était arrivé à une espèce d'accord, n'est-ce pas, entre les deux puissances qui finalement dominaient la Pologne. La situation a connu de nouvelles tensions au moment du coup de Prague, d'abord du printemps de Prague. Donc 1967, 1968, d'abord 67, disons, et notamment au niveau de l'état-major polonais, de l'armée polonaise, qui a sablé le champagne au moment de la victoire d'Israël en 1967, et qui a vu dans la défaite des armées arabes, en fait, une défaite des armées soviétiques, des armées communistes. Et bien que Gomułka ait réagi très fermement en expulsant les quelques milliers de Juifs qui restaient en Pologne, il y a eu un resserrement là très, très fort, il y a eu donc une espèce de poussée libertaire aussi qui s'est faite à nouveau jour en Pologne, notamment sous la pression de l'Église catholique et de l'état-major conjugué. C'est donc un an plus tard, en 1968, qu'a éclaté le printemps de Prague, au cours duquel donc Alexandre Dubček, qui se disait toujours officiellement communiste, a voulu aussi libéraliser le régime. Et l'on sait comment, au nom de la doctrine Brejnev, comme on l'appelait à l'époque, n'est-ce pas, l'Union soviétique à l'époque, avec justement les pays de l'Est voisins, dont des contingents polonais, ont mis fin à l'expérience, donc, et Dubček a été renversé en août 1968, donc en pleine période de vacances. On était sûr que l'Occident ne réagirait pas à cette affaire. Les chars sont entrés à Prague et donc ont réinstallé un régime de fer. En Pologne voisine, on a compris l'avertissement. Et les expériences de libéralisation n'ont pas été poussées plus loin. Mais les choses, évidemment, grondaient à l'intérieur. Il y avait comme une espèce de pression qui montait, n'est-ce pas ? Et notamment, c'était le cas au chantier naval de Gdansk, l'ancienne Danzig, qui avait été le détonateur de la Deuxième Guerre mondiale sur la Baltique, où les ouvriers des chantiers navals se sont révoltés, ou du moins pacifiquement. Et là a commencé alors une aventure absolument remarquable à bien des égards, qui a été le champ du cygne du communisme mondial, du communisme en tout cas d'Europe, c'est pas, qui était déjà pourri de l'intérieur. Bon, c'était la fin de l'ère Brejnev, qui lui aussi était un vieillard, presque moribond. Lui ont succédé des gens du même âge à peu près, donc comment s'appelait ça, le premier, Andropov le dira. Non, oui, c'est ça. Et Andropov, qui était aussi des vieillards qui avaient un pied dans la tombe, donc qui était incapable de rétablir vraiment les choses. Et ça, le jeune archevêque primat de Pologne, Karol Wojtyła, a compris qu'il n'y avait pas grand péril à attendre de ces gens-là et que l'on pouvait pousser les feux, que l'on pouvait pousser l'avantage. Et grâce au Vatican qui a injecté des fonds, a été donc créé clandestinement le fameux syndicat Solidarność, Solidarité, dirigé par un des meneurs de ces chantiers navals de Gdansk, Lech Walesa. Lech Walesa, qui était un fervent catholique, très proche de Karol Wojtyła, et très proche aussi, par conséquent, du Vatican. Lech Walesa bénéficiait des conseils de Karol Wojtyła, de l'argent qui venait du Vatican, et très vite aussi, du nouveau pouvoir américain qui avait succédé à Carter dans ces années-là, Ronald Reagan. Reagan qui a pris la mesure très vite de l'importance que pouvait avoir une déstabilisation du régime communiste polonais et partant des régimes communistes des pays voisins, des pays de l'Est, et par ricochet donc du pouvoir communiste en Europe tout entière. Entre-temps, évidemment, Karol Wojtyła était devenu pape, et il était arrivé donc au pouvoir peu avant que Ronald Reagan arrive au pouvoir. Ronald Reagan qui succédait aux États-Unis à Jimmy Carter, qui était un président faible, qui d'ailleurs n'a pas été réélu parce que les Américains ont pris conscience de son incapacité. C'était un brave homme certainement, mais pas fait pour ce genre de travail. Et qui voyait avec beaucoup de naïveté les choses, tandis que Ronald Reagan était resté dans l'optique de la guerre froide, et il voyait dans l'empire communiste ce qu'il appelait l'empire du mal. Et il s'est fait élire sur le programme justement de combattre à fond l'empire du mal. Combattre l'empire du mal, ça voulait dire d'abord réarmer l'Amérique. Et un formidable programme d'armement a été voté dès que Reagan est arrivé au pouvoir. Ce qui a relancé à fond la course aux armements, alors que Carter, au contraire, avait considérablement désarmé l'Amérique, créant d'ailleurs une situation extrêmement périlleuse en Europe, puisque dans les années Carter, les années 80 essentiellement, nous avons été à deux doigts de la guerre mondiale, car les Russes avaient pris conscience que c'était justement la fenêtre d'opportunité pour pouvoir attaquer l'Europe et l'Occident qui était au plus bas, en quelque sorte. Et des plans, l'armée russe était prête à attaquer, il y avait des plans pour arriver à Brest dans une petite semaine, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Les Spetsnaz qui devaient être largués dès les premières heures du conflit sur les capitales occidentales pour assassiner donc les gouvernants occidentaux, investir les états-majors, décapiter les armées, etc., etc. Donc là, on a été dans un péril extrême que justement Reagan avait pris la mesure. Il faut dire qu'à cette époque-là, se posait aussi la fameuse question des fusées Pershing qui devaient être installées en Allemagne et qui devaient dissuader justement une offensive soviétique en Europe. Les Français, sous la direction de Mitterrand à l'époque, Mitterrand a été un abominable personnage, mais sur ce plan-là, il a été bien. Il a fait basculer l'opinion européenne pour qu'elle adopte les Pershing, ce qui a vraisemblablement sauvé l'Europe d'une invasion soviétique dans ces années-là. Donc, quand Reagan arrive au pouvoir, c'est le réarmement de l'Occident à fond. Et notamment, dans le programme de réarmement de Reagan, il y a la fameuse guerre des étoiles, c'est-à-dire bouclier antimissile, dont il est à nouveau question d'ailleurs aujourd'hui, système sophistiqué de satellites artificiels, tueurs de missiles balistiques et de choses semblables, n'est-ce pas? Tant et si bien que l'économie soviétique, qui était à rude épreuve parce qu'elle avait poussé au maximum ses programmes d'armement, n'a pas pu suivre. Et ça, c'était ce que Reagan avait escompté, n'est-ce pas? Il espérait que, relançant cette course aux armements, alors que l'Amérique pouvait se payer ce luxe, l'URSS, exsangue économiquement, ne le pouvait pas. Et par conséquent, il allait provoquer l'effondrement économique, l'implosion de l'URSS. Reagan avait bien compris que l'URSS, une révolution était impossible. Parce que le parti tenait tout. Et on avait vu ce qui s'était passé justement en Hongrie, ce qui s'était passé en Pologne, etc. Donc une révolution était impossible. Mais ce qu'il avait cherché, c'était provoquer la désintégration intérieure du pays, l'implosion. Bon. C'était l'époque aussi où il y avait alors des dissidents qui se manifestaient. Le plus célèbre d'entre eux, dans les années 70, c'était Alexandre Solzhenitsyn, qui avait été donc exilé dans un des fameux goulags et qui avait réussi à être qu'on avait réussi à libérer, qui était venu en Amérique et qui avait donc écrit un livre qui avait secoué l'Occident, qui s'appelait L'archipel du goulag, dans lequel il révélait l'énorme système concentrationnaire soviétique, n'est-ce pas, où croupissaient des millions de personnes pendant tout le temps où le communisme avait été au pouvoir là-bas. Et soudain, les intellectuels occidentaux qui s'étaient laissés endormir par le chant des sirènes de ce que Lénine appelait les idiots utiles, finalement, se sont réveillés. D'autant que Solzhenitsyn n'a pas été le seul, et très vite, beaucoup de voix se sont levées. En quelque sorte, Solzhenitsyn a été une voix prophétique, pourrait-on dire, qui a ouvert la brèche, et dans cette brèche, de nombreux autres dissidents se sont engouffrés. Et de ce fait, l'URSS a été obligé d'assouplir, sous la pression de l'opinion mondiale, son système concentrationnaire. Et à la place du système concentrationnaire, on a fait quelque chose de plus doux, qui était les hôpitaux psychiatriques. Les dissidents étaient enfermés dans des hôpitaux psychiatriques et déclarés fous. Parmi eux, un des plus célèbres dissidents, qui était aussi une figure de proue du régime communiste, Alexandre Sakharov, Alexandre, je crois, qui était le père de la bombache. Andrei Sakharov, oui, qui était le père de la bombache soviétique et qui avait dénoncé les excès du régime, lequel a d'abord sa femme et ensuite lui ont été enfermés en hôpital psychiatrique. Ça a été évidemment un scandale énorme dans tout l'Occident, de telle sorte que le pouvoir soviétique a dû faire machine arrière. Les écrits de ces gens-là circulaient sous le manteau. Il y avait des revues satiriques qui brocardaient le régime, telles que Crocodile, ça s'appelait, n'est-ce pas ? Qui répercutait les romans qui étaient écrits par ces gens-là, etc. Bref, tout un mouvement culturel souterrain se mettait en place en URSS et était en train de saper l'autorité du régime, la foi aveugle des soviétiques dans le régime. Dans ce domaine aussi, il y avait alors la résistance de l'Église. L'Église orthodoxe, comme l'Église catholique en Pologne, est devenue un des ciments, n'est-ce pas, de la résistance au communisme. Bon, on aura l'occasion de reparler de l'Église orthodoxe en général, mais l'Église orthodoxe était double, comme c'était le cas dans tous les pays de l'Est. En principe, elle était inféodée au régime, elle dépendait de lui totalement, et les dignitaires de l'Église orthodoxe étaient souvent des crypto-communistes. Mais derrière cette église officielle se cachait une église souterraine qui, est recrutée parmi le peuple et notamment parmi les jeunes. De plus en plus de jeunes se rapprochaient de l'église orthodoxe, qui était aussi une manière de protester contre le régime. Il y avait aussi, alors, sur le plan religieux, les églises dissidentes qui étaient toutes regroupées alors, dans ce qu'on appelait les églises baptistes, qui regroupaient tous les protestants, tous les évangéliques. Les baptistes étaient la seule dénomination officiellement reconnue donc par le pouvoir soviétique, avec le même problème, c'est-à-dire qu'il y avait les officiels qui étaient en fait des espions du régime, mais qui fermaient les yeux sur une église clandestine qui se développait. C'était l'époque où Frère André et les Portes Ouvertes et des organisations de ce type-là travaillaient énormément donc pour distribuer des bibles et des choses comme ça. Et ce genre de travail a aussi considérablement aidé à déstabiliser le régime soviétique, qui évidemment faisait son possible pour démasquer ces réseaux-là, mais ne pouvait pas tout contrôler, bien sûr, tant les choses s'amplifiaient. Et puis enfin, il y avait ce qu'on appelait les Juifs du silence. Au niveau du judaïsme, on avait exactement le même phénomène. Le pouvoir soviétique depuis Staline était terriblement antisémite, je veux dire. Officiellement, il n'y avait pas d'antisémitisme en URSS, mais c'était l'antisionisme, comme d'ailleurs aujourd'hui en France et en Europe occidentale d'une manière générale. Mais tous les juifs étaient supposés être des antisionistes, ce qui finalement était une manière de repersécuter les juifs. Et notamment, toute pratique religieuse juive était considérée comme suspecte. Il y a eu alors à ce moment-là ce qu'on appelait les refusniks. Le mouvement des refusniks, c'est-à-dire des juifs qui demandaient un visa d'immigration pour Israël, tout en sachant évidemment qu'il leur serait refusé, et non seulement qu'il leur serait refusé, mais que bien souvent, ils seraient enfermés dans des goulags. Certains faisaient délibérément ces actes de provocation pour alerter l'opinion mondiale. Et Reagan en particulier, Carter d'abord, mais surtout Reagan, ont pris fait et cause justement pour ce qu'on appelait les Juifs du silence, comme on parlait de l'Église du silence ou les refusniks. Bon, il y a eu des cas célèbres qui ont défrayé la chronique, tels que Nathan Sharansky, qui est aujourd'hui ministre en Israël, que l'on a pu racheter contre des espions soviétiques qui ont été emprisonnés aux États-Unis. Ida Nudel, qui a eu encore enfin, des gens célèbres qui ont fini par aboutir en Israël, bien avant d'ailleurs la glasnost et la perestroïska, parce que justement, le pouvoir soviétique, face au scandale que cela provoquait, n'est-ce pas, dans le monde entier, était obligé finalement de lâcher du lest. À la fin de cette période-là, l'URSS a été obligée d'accepter une conférence internationale sur les droits de l'homme qui symboliquement, justement, a eu lieu à Helsinki, en Finlande, au cours de laquelle l'URSS a été obligée de signer une convention pour le respect des droits de l'homme, qu'elle n'avait évidemment pas l'intention de respecter. Signer des conventions de ce type-là, c'est quelque chose qui ne la gênait absolument pas, bien sûr, mais qui pouvait lui accorder les bonnes grâces des pays occidentaux. C'était compté justement sans cette opinion publique qui commençait à poindre en URSS même, et qui, une fois que ce texte a été signé, a mis les pouvoirs soviétiques en face de leurs responsabilités. Et tous les dissidents de tout poil, Juifs du silence, Église du silence, dissidents divers, Sakharov et autres, les internés, les familles des internés dans les hôpitaux psychiatriques, etc., etc., ont écrit au gouvernement, disant « Mais vous avez signé les accords de Helsinki qui prévoient que ceci et cela, etc. Comment se fait-il que vous violez, n'est-ce pas ? Et qui ont envoyé des doubles de ces lettres en Occident, etc. » Bref, la situation de l'URSS est devenue intenable sur le plan des droits de l'homme. Et très vite, la côte de l'URSS a fondu considérablement avec justement aussi une agitation interne extrêmement grave. Et le KGB, la police, les polices diverses d'URSS hésitaient de plus en plus à prendre des mesures de rétorsion, ce qui faisait que les dissidents s'enhardissaient de plus en plus devant la timidité et la pusillanimité de plus en plus grande de la répression, n'est-ce pas ? Et évidemment, la contestation en URSS gagnait du terrain. C'est ce qu'ont bien compris deux hommes qui ont donné l'estocade finale qui devait amener la chute du communisme en Europe. Ces deux hommes, c'est Reagan, dont j'ai parlé tout à l'heure, et Jean-Paul II. Jean-Paul II, qui, bien que pape, avait suivi évidemment ce qui se passait en Pologne et qui se passait aussi dans l'Empire soviétique. Bon, Jean-Paul II avait été élu pour deux raisons. Nous l'avons vu d'abord parce que on comptait sur lui pour appliquer dans le reste de l'Europe les méthodes qu'il avait employées en Pologne pour provoquer le renouveau de la foi qui détonnait dans toute l'Europe qui se sécularisait. Et on se rendait bien compte que Vatican II, quand le conclave qui avait élu Jean-Paul II s'était élu, on se rendait bien compte que Vatican II avait été une catastrophe et qu'il fallait donc revenir en arrière, mais revenir en arrière sans quand même que ce soit du passéisme, quoi. Et alors, on a pensé que, finalement, un homme qui était, comme Jean-Paul II, était à la fois un homme moderne, il faisait très sportif, etc. Donc, il n'allait pas revenir sur les acquis de Vatican II, mais en même temps, un homme traditionnaliste, sans être intégriste, et qui allait redonner, pensait-on, à l'Église catholique son panache, notamment en Europe, pour enrayer cette hémorragie et cet effondrement auquel on assistait partout, en dehors de la Pologne. Le cas le plus inquiétant, encore une fois, étant la péninsule ibérique. Deuxièmement, Jean-Paul II était un slave. Et c'était la première fois qu'un prélat slave était élu comme pape. Slave, ça voulait dire non seulement en prise directe avec le communisme et engagé dans ce bras de fer avec le communisme par l'intermédiaire de Solidarité, du syndicat Solidarité, mais également le vieux rêve du Vatican était toujours le même, malgré l'échec des deux guerres mondiales, reconquérir la Russie pour la foi catholique. D'ailleurs, le troisième secret de Fatima annonçait cet événement, que, en fin de compte, la Russie se convertirait au catholicisme. Et on estimait au Vatican depuis 1917, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que la reconquête de la Russie passait par, évidemment, l'extermination ou l'élimination du communisme. Le communisme qui avait mis à mal aussi considérablement l'Église catholique, car ce n'était pas simplement combattre un ennemi extérieur, mais c'était combattre un ennemi intérieur. Et nombre dans l'Occident européen, mais au-delà aussi, mais surtout européen, deux grandes forces, n'est-ce pas, s'affrontaient sur le plan spirituel, deux idéologies, la gauche, c'est-à-dire le communisme, et puis les partis non communistes, mais quand même infestés de marxisme, qu'étaient les différents socialismes, les gauchismes, etc., notamment depuis mai 68, et puis le catholicisme. Donc c'était eux ou nous. Et on avait compté sur Vatican II pour éliminer l'influence du communisme, ça a été le contraire qui s'est produit. L'Église s'est marxisée. Et on a vu donc toutes sortes de mouvements de jeunesse notamment, virer à une espèce de crypto-marxisme. Lorsqu'il y a eu déjà à la fin du pontificat de Paul VI des tentatives pour crosser un petit peu ces gens-là, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là ont quitté l'Église catholique sur la pointe des pieds. Le remède a été pire que le mal, finalement. Et on comptait donc sur Jean-Paul II pour remettre de l'ordre dans tout ça. Donc, Jean-Paul II a poussé les feux à fond quand il est arrivé au pouvoir. Son premier adversaire à abattre étant effectivement le communisme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Bon, l'Italie elle-même était très marquée, très infestée par le communisme. Et déjà, Jean-Paul II est intervenu. Et on a vu donc l'émergence dans les premières années, dans ces années-là, d'un virage des partis communistes européens, ce que l'on a appelé l'eurocommunisme. L'eurocommunisme dont justement le chef du parti communiste italien de l'époque, dont j'ai oublié le nom, je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient, tu ne viens pas, Philippe ? Comment ? Berlinguer, oui. A été le chef de file. Et là, bien entendu, il y avait le Vatican qui poussait à fond par derrière. Et finalement, ces partis-là, comme des partis du sud de l'Europe, des petits partis tels que, si je ne m'abuse, le Parti communiste portugais, qui était au pouvoir depuis 1973, ce qu'on appelait la Révolution des œillets, qui avait mis fin à la dictature de Salazar, à peu près en même temps que Franco, un petit peu avant la mort de Franco, Donc il y a eu toute une évolution. Bon, la France a essayé de donner un petit peu le change avec Marché, qui a essayé de donner un petit peu l'image d'un communisme un peu moins stalinien que celui de ses prédécesseurs. Mais le Parti communiste français est resté un des plus staliniens jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. À moins qu'avec maintenant Robert Hue, il évolue. Mais en tout cas, jusqu'à ces dernières années, malgré des dehors qui se voulaient modernes, il était resté très stalinien. Le PC le plus proche du Parti communiste soviétique, comme ça nous a été confirmé quand nous étions là-bas, il y a quelques années de cela. Déjà, il y a eu un ébranlement intérieur et la foi des militants, si vous voulez, a commencé à être ébranlée. Ça, c'était le premier point positif qu'a marqué Jean-Paul II. Deuxièmement, Solidarité a obtenu alors des résultats considérables, de telle sorte qu'il a dû obtenir, il a réussi à obtenir de la part des autorités polonaises, des autorités communistes, la reconnaissance officielle de ce syndicat. Or, c'est contraire à la doctrine marxiste, au dogme communisme, puisque à partir du moment où un pouvoir communiste est en place, ça veut dire que c'est le peuple qui est au pouvoir. Les dirigeants sont le peuple. Et ils défendent donc les intérêts du peuple. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir des syndicats qui lutteraient contre le pouvoir, puisque c'est le syndicat qui est au pouvoir, finalement. N'est-ce pas ? Donc, toute forme de syndicalisme était interdite dans les États communistes. Et Solidarité avait d'abord existé clandestinement, avait été officieusement tolérée par le pouvoir, et puis finalement, avait dû obtenir une sanction officielle. Et là, en acceptant de reconnaître officiellement Solidarité, le monde communiste s'est suicidé parce qu'il a touché au dogme. Alors très vite, le Parti communiste soviétique a compris ce qui se passait et a provoqué donc une réaction violente. C'était Gomulka qui était toujours au pouvoir à cette époque-là, je crois. Et il a été remplacé par Jaruzelski, qui était un militaire, chef de l'armée, qui a proclamé l'état de guerre. On était sur le point de revoir le coup de Prague, de 1968. Il y avait des concentrations de troupes des pays du pacte atlantique aux frontières de la Pologne, des manœuvres militaires qui ne présageaient rien de bon.
De Varsovie.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
L'Atlantique.
Du pacte de Varsovie, mais pardon. Et donc, on était à deux doigts de la guerre. Et c'est là que Reagan est intervenu en accord avec Jean-Paul II. En 1968, les États-Unis avaient laissé faire le coup de Prague, d'autant qu'ils avaient été pris complètement par surprise. Dans ces années-là, Reagan a fait savoir aux dirigeants soviétiques que les États-Unis ne resteraient pas indifférents en cas d'invasion de la Pologne et qu'ils n'accepteraient pas l'invasion de la Pologne. Et le pouvoir soviétique a dû reculer. Tout ce qu'il a pu faire, ça a été donc de mettre Jaruzelski au pouvoir, de proclamer l'état de guerre, un état d'exception. Bon, Solidarité est devenue à nouveau, a été officiellement supprimée, mais ça ne marchait pas. Des grèves ont éclaté à Gdansk et autres lieux. Très vite, la Pologne a été entièrement paralysée par des grèves. Et l'état de guerre a tourné, disons, pour parler familièrement, au jus de boudin, ça. Ça a été la déconfiture du pouvoir. Le pouvoir a dû reculer, n'est-ce pas, sous la pression conjuguée, n'est-ce pas, de l'Église catholique qui menait les affaires de bout en bout. Et Jean-Paul II est allé plusieurs fois en Pologne en visite officielle pastorale, mais évidemment, il ne manquait pas de remettre de l'huile sur le feu, c'est évident. Et le pouvoir ne pouvait pas officiellement s'empêcher à ce que le pape vienne, évidemment, visiter ses ouailles, n'est-ce pas. Bon. Et puis, Lech Walesa était constamment en contact avec le Vatican, qui conseillait, qui envoyait ses légats, etc., etc. Jean-Paul II a mené les choses de bout en bout. Quand le pouvoir soviétique s'est rendu compte du rôle que jouait Jean-Paul II, il a essayé de l'éliminer physiquement. Et ça a été le fameux Ali Aksa, quelque chose comme ça, excusez-moi exactement, un Turc qui faisait partie d'un groupement gauchiste turc, terroriste, etc., qui a été armé par les Bulgares, donc pour brouiller les pistes, pour qu'on ne sache pas que ça venait du RSS, qui un jour a tiré, vous vous souvenez, sur Jean-Paul II au cours d'une procession qui avait lieu sur la place Saint-Pierre. Jean-Paul II, grièvement blessé, en a réchappé miraculeusement, et donc l'attentat a été manqué. L'enquête a été plus ou moins étouffée, on n'a pas voulu mettre directement en cause l'URSS, mais enfin, il est évident que ceux qui ont poussé à fond l'enquête savent que ça remontait, bien entendu, à Moscou. Et cet échec de l'attentat contre Jean-Paul II, semi-échec, puisque Jean-Paul II a quand même est sorti très diminué physiquement, mais pas moralement ni spirituellement, il avait gardé tout son punch, et jusqu'à aujourd'hui, comme on le sait, n'est-ce pas ? Mais a été un grave revers pour l'Union soviétique, parce que malgré les tentatives d'étouffer l'affaire, un peu partout, on s'est bien douté que la main de Moscou était derrière cette affaire. Donc l'opposition au régime un peu partout, et notamment en Pologne, s'est durcie, et alors est arrivé, après la mort d'Andropov, à la direction du Parti communiste soviétique, un jeune chef, un jeune leader, Mikhail Gorbatchev, dans lequel tout le monde voyait le Jean-Paul II, finalement, de l'URSS. Et il avait aussi 50 et quelques années à l'époque, 55 ans, à peine 55 ans, je crois, quelque chose comme ça. Il était considéré comme un des partisans d'une ligne dure. On pensait justement que son jeune âge, relativement, évidemment, pour un chef d'État, évidemment, c'était jeune, et notamment dans cette gérontocratie qu'était l'URSS, son jeune âge a lui donné plus de poigne que ses prédécesseurs, et qu'il allait donc resserrer les boulons. Je pense que Gorbatchev est arrivé au pouvoir avec cette idée, mais quand il a vu comment la baraque était vermoulue, il a compris que c'était irrécupérable. Il a compris que le pouvoir, comme l'avait bien vu Reagan, était en train de s'effondrer de l'intérieur. Le système est en train de s'effondrer de l'intérieur. Alors, il a tenté de sauver les meubles et de provoquer une espèce de libéralisation à l'image de ce qui s'était passé en Pologne. Finalement, il a essayé d'imiter ce qui s'était passé en Pologne. Et alors, il a lancé ces fameux deux slogans de la glasnost et de la perestroïka. Ce qui veut dire exactement, Ahmed ? Ça veut dire quoi ? C'est de... Comment ? Ou transparence, c'est ça ?
La transparence
et l'ouverture, c'est ça ? Alors bon, liberté de presse, liberté d'association, enfin les libertés fondamentales, en gros les accords d'Helsinki, pour essayer de désarmer la propagande anti-soviétique qui se faisait jour un peu partout. Ces ouvertures ont été reçues avec beaucoup de méfiance. En Occident, on y a vu une ruse de celui considéré comme un vieux renard. Et notamment, Jean-Paul II s'est bien rendu compte qu'il fallait, maintenant que le colosse chancelait, il fallait le pousser jusqu'à ce qu'il en meure, quoi. Et finalement, ces ouvertures n'ont pas été véritablement saisies par l'Occident, délibérément, volontairement, parce que ce que cherchaient Jean-Paul II et Reagan, qui étaient en étroite relation, ils se téléphonaient, ils s'écrivaient, ils envoyaient des émissaires, etc. Ils travaillaient alors dans une harmonie parfaite. Et puis, 89, ça a été donc la chute de l'URSS, d'abord l'ouverture du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, donc la fin des satellites, la fin de la guerre, l'état de guerre en Pologne, l'arrivée de Solidarność au pouvoir, la démocratisation de ces pays-là. Et puis, un an plus tard, je crois, c'était... trois ans plus tard, 92, oui. Gorbatchev était renversé, vous le savez, par un coup d'État qui amenait Helsinki au pouvoir et, par conséquent, la fin du système communiste. C'était deux hommes qui, n'ont pas été à eux-mêmes, si vous voulez, la cause de toute cette affaire, mais deux hommes qui ont été d'une lucidité extraordinaire, Jean-Paul II et Ronald Reagan, qui ont compris que le colosse soviétique chancelait et que le temps était venu de lui donner l'estocade. Alors, ils ont été aidés, évidemment, par tous les dissidents, par tous les Sakharov, par tous les Solzhenitsyn, par Lech Walesa, par bien d'autres, n'est-ce pas? Mais ils ont été les deux leaders du monde occidental qui ont compris que là, le temps était venu, et s'ils n'avaient pas été là, est-ce que les choses ne se seraient pas passées, en tout cas autrement? Et ce qui a été remarquable, c'est que, pour la première fois dans l'histoire du christianisme, on pourrait dire, l'Église catholique a été à la base d'une révolution non violente, notamment en Pologne, qui a été menée selon des principes qu'il faut bien reconnaître comme étant des principes absolument évangéliques. L'odyssée de solidarité de Cézanos est une véritable page évangélique. Là, il faut tirer un coup de chapeau au catholicisme de cette période-là, n'est-ce pas, et à Jean-Paul II qui a su mener cela parfaitement selon les principes de l'Évangile. Il n'y a pas eu de révolte violente, il n'y a pas eu de sang versé, en tout cas du côté des insurgés, mais il y a eu une résistance non violente, une dénonciation, une résistance passive, n'est-ce pas, qui a fait que finalement, ce pouvoir qui était déjà bien vermoulu, bien sûr, n'a pas pu résister. Maintenant, évidemment, Jean-Paul II a vu dans cette victoire l'occasion de pousser ses pions en direction de l'Est. Et il y a eu donc, hélas, cette triste affaire de Yougoslavie dont nous avons parlé la dernière fois, dans laquelle le Vatican a été aux premières loges, n'est-ce pas, exigé, n'est-ce pas, le découpage de la Yougoslavie, de l'ex-Yougoslavie, l'indépendance de la Croatie en particulier. Il a fait ça par l'intermédiaire des Länder du sud de l'Allemagne, la Bavière en particulier, c'est pas, qui a fait campagne, obligeant le gouvernement de Bonn à intervenir justement dans le conflit et exiger de ses partenaires européens et des États-Unis donc le découpage de la Yougoslavie et donc le bain de sang qui en a suivi, au point que le Vatican a exigé que l'on fasse passer les anciens nazis, les anciens Ustachi, les partisans d'Ante Pavelic, les tortionnaires, n'est-ce pas, comme des résistants, finalement essayer de refaire ce qui s'était passé en Pologne, mais avec des gens qui avaient gardé, évidemment, la tradition de violence qui était la leur, n'est-ce pas. Et puis, faire passer les Serbes, qui étaient au contraire ceux qui avaient aidé les Juifs, qui avaient été du côté occidental pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour des nazis. Et la propagande alliée du Vatican et de l'Ouest, des États-Unis en particulier, avec la propagande arabe, a réussi ce tour de force. Et pour montrer à quel point on en était arrivé, Madeleine Albright, qui est d'origine juive, ses parents ont fui la Shoah pendant la guerre, et vous savez où ils se sont réfugiés? Je vous le donne en mille, à Belgrade. Ils ont été sauvés par les Serbes. Et pour remercier les Serbes d'avoir sauvé sa famille, Madeleine Albright les a fait passer pour des nazis et les a bombardés. Bon, ça se passe de commentaires, c'est pas. Mais le Vatican était derrière cette affaire. Et actuellement, le Vatican profite de ce vacuum qui s'est produit en URSS depuis la chute du mur pour essayer de réévangéliser d'abord l'Ukraine avec le problème des uniates. Mais il a réussi à récupérer donc à peu près un tiers de l'Ukraine. Et il y a un formidable bras de fer entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe actuellement en Russie, n'est-ce pas? Mais actuellement, le Vatican est sur la défensive, car les orthodoxes sont aussi des durs, n'est-ce pas? Et actuellement, l'Église orthodoxe à l'appui du pouvoir. C'est plus elle qui est à la solde du pouvoir, mais le pouvoir s'appuie à fond sur elle. Et Poutine redit et n'arrête pas de redire que l'unité de la nation russe doit se faire autour de l'Église orthodoxe. Donc là, les catholiques sont en face d'une noix très dure à croquer, n'est-ce pas? Et c'est pas demain, à moins que les choses changent, mais enfin pour le moment. Et ce qui s'est passé justement en Yougoslavie n'a pas contribué à donner aux Russes et aux orthodoxes une idée plus positive du catholicisme et du Vatican en particulier. Donc, première mission Jean-Paul II, partiellement accomplie, destruction du communisme. Bon, il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais enfin, c'était à peu près sur ce mandat-là qu'il avait été élu. re-évangélisation de la Russie, ça il a échoué, disons les choses, il a échoué. Troisième mission qui lui avait été confiée, remodeler l'Église catholique d'Europe sur le modèle de la Pologne. Alors pour cela, Jean-Paul II s'est démené sans compter. D'abord, il a voulu dès le départ donner un visage d'un pape moderne. D'abord d'un homme jeune, il faisait du ski, du sport, soulignait des caméras. Il était très doué pour le théâtre, il a fait du théâtre dans sa jeunesse d'ailleurs, n'est-ce pas ? Donc très médiatique, passant très bien à la télé, tenant un langage moderne, si bien qu'il a reçu un accueil enthousiaste des médias occidentaux pendant la première partie de son pontificat. Et on pouvait penser que les choses partaient très bien. Et Jean-Paul II a entrepris alors tout un grand système de voyages. Il a voyagé dans le monde entier, des voyages pastoraux. Justement, ce qui avait été, pour mettre en place dans le monde entier, ce qu'il avait fait en Pologne. Jean-Paul II était un homme qui croyait beaucoup à la piété populaire. L'analyse qu'il avait faite du déclin du catholicisme, c'est que le catholicisme avait grandi en Europe sur le terreau d'une piété populaire. Une piété populaire très primaire, très superstitieuse, disons le mot très païenne, hein, mais qui imprégnait la société tout entière. Et qui vivait au rythme de grands événements. Les pèlerinages, les grandes fêtes, avec un grand spectacle, le théâtre, quoi. Il croyait beaucoup au théâtre. Et bon, alors, lui-même, pour sa gouverne personnelle, n'était pas un adepte de la piété populaire. Si l'on en croit ce que l'on peut entendre de lui, c'est un homme qui a une piété profonde et réelle, qui passe des longues heures en prière, qui a une vie droite et honnête, etc. Bon, ça c'est... Oui, une foi solide, biblique, etc. Mais... Le goût du plus grand nombre, c'est quand même une foi simpliste et populaire. Et alors, la grande faute de Vatican II, selon son analyse, c'est justement d'avoir détruit cette piété populaire et par conséquent détruit en Europe les bases de la foi catholique. Et il a ordonné, par exemple, un retour en force de la mariolatrie, qui plaisait beaucoup aux femmes, etc., l'aspect sentimental d'une piété... d'une piété très féminine, etc., dont lui-même était adepte. C'est un grand mariolâtre. Et sa devise, c'est totustus, ça veut dire totalement voué à la Vierge. Il a perdu sa mère très jeune, je crois, et donc il a considéré la Vierge un peu comme sa mère, quoi. Et quand il a été blessé, donc là-bas, la fameuse attentat, c'est tout de suite à la Vierge qu'il a crié « Ô mère, ô mère ». Ça a été ses premiers mots quand il a donc reçu les balles. Bien. Donc lui-même est très mariolâtre, et donc il a redynamisé à fond tous les sanctuaires mariaux, et il les a visités tous systématiquement. Ça a été parmi ses premiers... Alors évidemment, la Vierge Noire de Pologne, les fameuses apparitions de Yougoslavie, de Mondu, je ne sais plus quoi là-bas, comme ça. Bon, ça, on n'en a plus trop parlé après, parce que c'est un peu... Il est allé à Fatima, à Lourdes, bien entendu, Sainte-Anne-d'Auray même, il y a peu de temps. Bref, tous les grands sanctuaires mariaux, même en Inde, il y a un sanctuaire marial, etc. Et alors, ces voyages étaient des grands messes, quoi, des grandes manifestations de force. C'était de dire aux catholiques, regardez, vous êtes encore un peuple nombreux, vous êtes encore un peuple puissant, faut pas se décourager, rien n'est perdu, on va reconquérir l'Europe pour le Christ, etc., pour la foi. Et alors, il y a un sanctuaire que Jean-Paul II a particulièrement remis en honneur, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, donc au bout de l'Espagne, là-bas, en Galice, qui a été au Moyen-Âge le grand sanctuaire, le grand lieu de pèlerinage de l'Europe. Vous savez que de toute l'Europe, on allait en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Bon, évidemment, là, c'était du folklore, et avant Jean-Paul II, ce pèlerinage était tombé en désuétude, sauf pour les Espagnols qui allaient comme ça, comme bon. Mais Jean-Paul II est allé donc lui-même en personne à Compostelle et a invité donc de Compostelle, il a donc interpellé l'Europe en disant que l'Europe se réveille. Europe, qu'as-tu fait de ton baptême, hein, et invité les Européens à revenir à Compostelle, ce qu'on appelait le rêve de Compostelle. Là, il a essayé d'insuffler depuis Compostelle à l'Église catholique européenne une nouvelle vision de sa force, de sa puissance, de son avenir, de son réveil, etc. etc. Bon, dire que ces efforts étaient totalement vains serait faux. On a vu effectivement refleurir un peu partout toute cette piété populaire qui, pour nous protestants, évidemment, nous prend un rebrousse-poil. C'est évident, quoi, hein, parce que justement, la vision protestante est tout à fait autre. Et le retour de la mariologie, des processions, des pèlerinages, de toute ce fratras de superstition, n'est-ce pas, que, à notre point de vue, Vatican II avait expurgé d'une manière heureuse, qui était pour nous tout à fait positive. Bon, Jean-Paul II a aussi convoqué un synode des évêques, n'est-ce pas, pour revenir sur ce qu'il considérait les excès de Vatican II, si bien que beaucoup de choses ont été enrayées, puis troisième mesure, évidemment, il a mis à tous les postes d'évêques des gens qui étaient dans sa ligne à fond, de telle manière qu'après lui, n'est-ce pas, verrouillant, bétonnant l'Église catholique pour éviter qu'après lui, elle ne revire donc dans une ligne pro-Vatican II. On a en quelque sorte abandonné Vatican II sans le dire, n'est-ce pas ? Officiellement, la doctrine officielle de l'Église catholique est toujours Vatican II. Dans la réalité, ça a changé. D'autant que, justement, quand il est arrivé au pouvoir, Jean-Paul II aussi avait affaire à un véritable schisme de son Église, sous la direction d'un évêque suisse de Sion, de la Vallée, l'évêque Lefebvre, qui avait été archevêque de Dakar, et puis qui avait créé donc un mouvement pratiquement schismatique. Son prédécesseur, Paul VI, puis Jean-Paul II, n'avait pas osé l'excommunier. Excommunier, c'est pas tellement bien vu. Puis bon, il y avait l'histoire des vieux catholiques qui étaient encore sur le cœur de l'Église catholique depuis 1870. Bon, alors il avait été simplement suspens ad divinis. Ça veut dire qu'il n'avait plus le droit de dire la messe, mais il était toujours bon. Finalement, des négociations ont été entreprises avec justement le séminaire qu'il avait créé en Suisse, à Ancône, je crois, et finalement, le schisme de l'évêque Lefebvre s'est résorbé, puisqu'il n'avait plus lieu d'être. Finalement, les revendications des intégristes catholiques avaient été satisfaites. Jean-Paul II a mis au pas alors tous les chrétiens de gauche, et notamment le plus célèbre d'entre eux, l'évêque Gaillot d'Évreux, qui lui aussi a été donc non pas excommunié, mais nommé évêque d'un diocèse fantôme qui n'existe pas, autant dire mis à une retraite anticipée, n'est-ce pas ? Alors ça a eu des effets mitigés, cette politique, parce que justement les chrétiens catholiques les plus progressistes ont pas été dupes du virage, quoi. Et un certain nombre se sont soumis, mais beaucoup ont quitté l'Église sur la pointe des pieds. Et finalement, l'action de Jean-Paul II a été... Bon, il y a eu quelques ralliements, il y a eu certaines reprises un peu, mais pour l'essentiel, on peut dire que sa tentative de réinstaurer, de faire revivre le catholicisme par le catholicisme populaire a échoué. L'Europe n'était pas la Pologne. L'Amérique du Sud, c'est pareil, il a essayé d'enrayer l'hémorragie vers l'Amérique du Sud, là aussi, semble-t-il, sans beaucoup de succès, même si l'Église catholique, par l'intermédiaire des mouvements charismatiques, enfin dits de renouveau plus exactement, ont essayé de mimer, de singer en tout point les télévangélistes américains, en Amérique du Sud et en Amérique tout court d'ailleurs, Amérique du Nord. Ils ont leur propre satellite artificiel comme les télévangélistes américains, les mêmes méthodes, entre gens médiatiques, etc., chaînes de télé, chaînes de radio, tout ce que vous voudrez, etc. Ça marche pas. Hein. Ça marche pas autant qu'ils le souhaiteraient, en tout cas. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques progrès, mais pas dans la proportion de ce que l'Église catholique, le Vatican, avait souhaité espérer. Donc, ça ne marche pas. Et l'action de Jean-Paul II vient trop tard. Le mal était déjà trop profond quand il est arrivé. Et les masses européennes ne se laissent pas faire. Et il y a aussi un autre point qui nuit énormément à cette politique de Jean-Paul II, c'est que Jean-Paul II, dans la deuxième partie de son pontificat, s'est mis à rappeler haut et ferme et à marteler, donc, dès le départ d'ailleurs, mais c'est surtout devenu très fort, la deuxième partie de son pontificat, les bases morales qui étaient en train d'être abandonnées, justement, non seulement par l'Europe, par les populations européennes, les pouvoirs européens, mais également par de nombreux catholiques eux-mêmes. Et un des effets pervers et néfastes de Vatican II, dans justement le fameux schéma sur la liberté religieuse, qu'évidemment on ne saurait qu'approuver en tant que protestant, mais qui a été pour le catholicisme une catastrophe. Parce que justement, le catholicisme avait pour habitude de faire aveuglément confiance aux autorités ecclésiastiques en ce qui concernait les bases morales de sa vie privée. Il n'est pas jusqu'à certains pays, comme le Canada français par exemple, où les prêtres passaient dans les maisons chaque année pour s'assurer que la femme était bien enceinte, quoi, hein. Il fallait qu'il y ait un enfant tous les ans, parce qu'il fallait... Que le boom de la natalité fasse en sorte que les catholiques deviennent plus importants que les protestants. Alors, le meilleur moyen, c'était de pousser la natalité, quoi. Alors, un des grands problèmes qui a agité l'Église catholique, déjà à Vatican II, c'était le problème de la régulation des naissances. C'était l'époque où apparaissait sur le marché la fameuse pilule anticonceptionnelle, n'est-ce pas ? Et le Vatican II s'est saisi de cette question. Un certain nombre de prélats étaient partisans d'assouplir la législation catholique dans ce domaine-là, et notamment de permettre, sinon la pilule, du moins la pratique de... de préservatifs ou des choses comme ça, quoi. Et même jusqu'à un certain point, certains étaient partisans de la pilule. Et finalement, dès le début du concile, enfin dès le début de son pontificat plus exactement, Paul VI a déclaré que la question de la régulation des naissances était soustraite au pouvoir du concile. C'était quelque chose qui était réservé à la décision personnelle du pape, ce qui avait, au nom de, si vous voulez, selon la théologie catholique, il a le droit. Donc le concile n'avait pas à se prononcer sur cette question-là. Bon. Alors, ce qu'on appelait dans l'Église catholique de l'époque les progressistes ont été quelque peu inquiets de cette évolution, et ils avaient raison de faire, parce que à la fin du concile, Paul VI a annoncé qu'il s'opposait à toute forme de régulation de naissance en dehors de la méthode augino, c'est-à-dire des méthodes naturelles. La base de cette législation était justement ce qui est souvent la base de la théologie catholique par rapport au monde non chrétien, la loi naturelle, ce qu'il appelle la loi naturelle. Elles sont basées sur Romains 2, ce que les païens ont dans leur cœur, le sens de ce qui est juste, etc., ce qui est une mauvaise interprétation du texte d'ailleurs. Mais l'idée de base justement de la théologie catholique dans ce domaine-là, c'est que finalement les grands principes chrétiens existent chez les païens aussi. D'ailleurs, Vatican II a instauré un comité de dialogue avec les religions non chrétiennes. Et Jean-Paul II a beaucoup poussé dans ce domaine-là, avec les rencontres d'assises entre les différentes religions, les colloques des religions, n'est-ce pas ? Bon. Cette loi naturelle fait qu'au nom d'une exégèse souvent très subtile de la loi naturelle, Jean-Paul II se permet de réaffirmer, d'exiger du monde, non seulement du monde catholique, mais également du monde non-croyant, des pouvoirs publics, européens notamment, le respect de l'éthique chrétienne et même de l'Église, de l'éthique catholique. C'était déjà ce qu'avait fait Paul VI dans le domaine de la régulation des naissances. Donc il avait interdit toute forme de ce qui était régulation des naissances artificielles. Donc pilule, stérilé, ça c'est, on est d'accord, parce que c'est un mini-avortement, mais les préservatifs, tout, en dehors de la méthode Augino, qui était, à son sens, la seule qui respectait la loi naturelle, ce qui d'ailleurs déjà, par rapport à la théologie officielle de l'Église catholique, était déjà une entorse, ce que Mgr Lefebvre, d'ailleurs, lui a rappelé. Parce que l'Église catholique était, au contraire, pour... pas de limitation dans les naissances, au contraire. Plus il y aura de petits catholiques, mieux ça vaudra, quoi. Hein. Bon, à Vatican II, il a fallu évoluer. Alors là, ça a été le tollé général. Le tollé général dans le monde catholique. Et ça a été le point de départ qui a fait que beaucoup de catholiques ont quitté l'Église sur cette question-là. Et sur les questions d'éthique sexuelle et familiale qui en découlaient. Hein. Et le divorce s'est fait justement sur ces questions d'éthique sexuelle, à partir de la fameuse affaire justement du contrôle des naissances et la fameuse affaire de la pilule. On a commencé à dire que comment des célibataires qui ne connaissaient rien à la vie de famille pouvaient légiférer dans pareille matière. Il faut dire que c'est vrai que l'Église catholique avait été très loin dans ce domaine-là, allant jusqu'à dire aux époux qu'à certains moments, ils ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles, au moment des jeûnes, au moment des fêtes, au moment de ci, au moment de cela, pendant le carême, enfin bref. Tout l'un dans l'autre, il restait plus grand temps où les époux pouvaient vivre l'un avec l'autre. Bon, que un certain nombre de positions étaient interdites dans l'acte sexuel, enfin des choses comme ça. Bon, c'est vrai qu'on pouvait se demander d'abord où ils avaient pris ça, et deuxièmement, comment des gens qui, en principe, étaient célibataires avaient une telle connaissance des choses. Bon. Donc, le public catholique lui-même ne voulait plus du tout entendre de cette espèce de rien entendre de cette interférence de l'Église catholique dans sa vie intime, dans la vie intime des couples, parce que finalement l'Église catholique s'était arrogé ce droit-là. Alors elle avait pris beaucoup de champ après Vatican II, mais le peu qu'elle essayait encore d'intervenir au niveau, par exemple, du contrôle des naissances, c'était encore trop. Or Jean-Paul II a vu, d'une part, avec raison, l'évolution des mœurs qui était de plus en plus permissive. Il y a eu la fameuse bataille de l'avortement en 1973 en France, qui était le premier pays donc, d'Europe occidentale à légaliser l'avortement. Et la papauté, c'était encore Paul VI à cette époque-là, donc, a réagi aussi très très négativement, ce qui a accentué le divorce aussi avec le public français d'une manière générale, y compris un certain nombre de catholiques. Et à chaque fois qu'il y avait un coup de barre de ce type-là au niveau du Vatican, alors il y avait des cohortes entières de catholiques qui quittaient l'Église sur la pointe des pieds et qui accentuaient donc le mouvement de fuite d'une Église qui était considérée comme quelque chose de passéiste, d'opposé au progrès, d'opposé au modernisme, etc., et incompatible donc avec l'esprit moderne. Il y a eu ensuite alors Jean-Paul II qui a rappelé la condamnation du divorce, divorce à de plus en plus facile, divorce que on voulait faire passer en Italie, qui était interdit justement à cause de la présence de l'Église catholique, mais qui a finalement été adopté par tous les pays anciennement catholiques qui l'avaient refusé, c'est-à-dire Italie, Espagne et Portugal. Je ne suis pas sûr que même maintenant la Pologne aussi. Je crois que la Pologne a fini par accepter la législation, la libéralisation du divorce. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que depuis que la chute du communisme, le catholicisme aussi est en retrait en Pologne. Finalement, les catholiques polonais étaient unis contre, mais maintenant qu'il n'y a plus d'ennemis avec lesquels il faut s'unir contre, eh bien, l'Église catholique de Pologne est aussi en retrait. Moindre, évidemment, que dans nos pays, mais quand même, c'est un retrait qui est sensible. Et beaucoup de choses portent aussi sur ces questions d'éthique. On sait que c'est le point où Mgr Gayot a attaqué l'homosexualité, tous les problèmes de mœurs auxquels on se trouve confronté, les cohabitations des jeunes, relations prémaritales des jeunes, etc., etc. Pour essayer de contrer ces choses-là, Jean-Paul II a essayé d'organiser des grands rassemblements de jeunes où il rappelait la fidélité au mariage, etc., etc. Bon, avec un certain succès, jusqu'à un certain point. Il a eu raison de le faire, même d'un point de vue catholique, parce que Jean-Paul II, je crois, a finalement fait ce calcul, que en réaffirmant ces choses, bien sûr, il indisposait une grande partie de ses troupes, mais que de toute façon, ceux qui devaient partir, partiraient de toute manière. Et que finalement, il valait mieux que ces gens-là partent, qu'il y ait un catholicisme plus réduit au point de vue nombre, au point de vue en Europe, mais de gens qui soient davantage convaincus. Je crois que c'est maintenant sa ligne de conduite. Je crois qu'il a compris ça. Il a compris qu'il ne rallierait pas les masses comme il avait pensé le faire au début de son pontificat. Mais tant pis que ceux qui doivent partir partent. Ils partiront de toute façon. Mais on va se trouver avec un catholicisme réduit, mais le noyau dur, les gens convaincus, des gens qu'on va pouvoir mettre au travail, et avec eux, pense-t-il, lui ou son successeur, plutôt son successeur maintenant, eh bien, pourront reconquérir, repartir à la conquête. Bon, son successeur, il va bientôt passer la main d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce que son successeur réussira? Qui sera son successeur? Est-ce que le sacré collège, qu'il a d'ailleurs considérablement étoffé en mettant beaucoup de cardinaux du tiers-monde, au point qu'on se demande si le prochain pape ne sera d'ailleurs pas un pape du tiers-monde, un noir éventuellement, quelque chose comme ça. Est-ce que son successeur sera obligatoirement dans la même ligne que lui? C'est ce qu'il souhaite, bien sûr, et c'est pourquoi il a milité. Mais est-ce que finalement le Sacré Collège, au moment du conclave, fera la même analyse que Jean-Paul II, ou estimera que Jean-Paul II est allé trop loin, que la crise est allée trop loin et qu'il faut lâcher du lest un petit peu dans le domaine moral? Ça, l'avenir nous le dira, n'est-ce pas? En tout cas, au moment de l'entrée dans le troisième millénaire, ce qui était le rêve de Jean-Paul II, Jean-Paul II avait été élu avec l'idée qu'il serait le pape qui ferait la transition entre le nouveau millénaire. C'est pourquoi il avait organisé d'ailleurs ce fameux jubilé de l'an 2000, n'est-ce pas, qu'il comptait bien présider, ce qu'il a fait d'ailleurs. Mais bon, malgré tous les efforts qu'il a déployés, on ne peut pas lui faire le reproche de ne pas s'être démené. Le bilan est quand même très mitigé. Le bilan de son action est très mitigé. Et l'Église catholique se retrouve effectivement, au bout du pontificat de Jean-Paul II, en Europe en tout cas, très diminuée. Ailleurs dans le monde, moins. Mais quand même, l'Europe et le monde occidental constituent quand même encore les gros bataillons du catholicisme. Bien sûr, dans le tiers-monde, l'Église catholique se porte mieux, mais proportionnellement, elle est moins importante quand même qu'en Europe. Elle est confrontée avec des adversaires qui lui tiennent la dragée haute beaucoup plus qu'ailleurs, n'est-ce pas ? Notamment le bouddhisme, l'hindouisme, qui pénètre maintenant en Europe aussi, n'est-ce pas, qui influence de plus en plus les Européens, y compris d'ailleurs certains catholiques eux-mêmes. Et le yoga, la méditation transcendantale, tout ça, il y a un mélange dans l'Église catholique. Bon, ça ne le dérange pas, ça ne le gêne pas, ça fait partie de la piété populaire. Du moment que les gens restent fidèles à l'Église catholique, même de non, c'est l'essentiel finalement pour lui. Parce que de là, on pourra toujours récupérer quelque chose, pense-t-il. Mais le bilan est quand même mitigé et le pape qui viendra après lui ne sera pas à la noce. Alors quel sera l'avenir de l'Église catholique? Certains se demandent même si l'Église catholique a encore un avenir. Est-ce qu'on n'arrivera pas à un État où même la papauté devra mettre de l'eau dans son vin, donc l'Église catholique ne sera plus catholique finalement. À la veille du nouveau millénaire, de nombreux points d'interrogation sont devant l'avenir de l'Église catholique et bien entendu aussi d'une certaine manière de la chrétienté tout entière. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?